présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre. Pierre. Production. Mise en scène, Julien Jean-Pierre. Attention, l'écran radiophonique est une marque déposée. Il ne peut être utilisé sans l'autorisation du propriétaire. Les œuvres qui passent sous cette marque sont la propriété de l'auteur. Porte des lunettes et semble très sympathique. Le garçon est délicieux, avec un visage angélique, un peu moqueur. Il a de beaux cheveux châtains qui ondulent et a fait une petite queue de cheval derrière. Il peut voir qu'ils sont en train de taper avec une espèce de barre de fer autour de la plaque. Voilà, déceler. La déceler en enlevant la terre qui est autour. Il me demande, qu'est-ce que vous faites? Il lève la tête tous les deux. Le garçon nous dit, je te regarde. Il lui dit, non comme ça. La fille demande, tu fais là? Il lui dit, je rentre chez moi, enfin, à l'hôtel, parce que je n'habite pas Lyon, je suis de Paris. Elle lui dit, moi j'y habite. Il lui dit, ah. Elle lui fait, tu visites? Il lui dit, pas vraiment. Elle lui fait, eh bien, tu vois, nous sommes de Lyon, enfin, pas vraiment, parce que moi j'habite loin ou là, mais nous allons visiter Lyon, mais par les sous-sols. Il surpris lui demande, par les sous-sols? Elle lui dit, oui. Lyon est un gruyère. Il y a des tas de cavernes et de passages. C'est très intéressant. On peut même faire des messes noires et entendre des groupes rock. Il lui dit, ça doit être très intéressant. La fille lui demande, ça t'intéresse? Oui. Le garçon lui dit, mais il ne pourra pas nous suivre. Elle lui dit, il semble souple. Puis elle dit à Cliff, tu sais, il faut nous suivre. Et c'est assez dangereux. Cliff lui dit, je veux bien essayer. Elle lui fait, bon, je m'appelle Sweetie et mon ami c'est Didier. Voir les lus, etc. Et même les aventures de Sweetie et Didier. Moi, c'est Cliff. Elle lui dit, on va ouvrir le passage. La mairie a fermé les passages parce que c'est dangereux. Enfin, pour les ploucs, mais pas pour nous. Cliff se baisse pour les aider. Une fois que la dalle a été décellée, il y a un anneau sur la dalle. Didier y met une barre à mine pour la soulever et la retirer. Didier se met à aider de Cliff et ils sont arrivés à la soulever. Dépose la dalle à terre. Cliff se penche et voit un trou sombre. C'est noir. On ne voit pas le fond. Didier lui dit, attends. Il sort de son sac à dos parce qu'ils ont chacun un sac à dos. Il sort de son sac à dos, donc une corde longue avec un crochet d'alpiniste au bout. Il accroche sa corde au mur où il y a un anneau et jette le bout de la corde dans le trou. Il prend une lampe de poche, torche, Sweetie aussi. Et Didier dit, il va falloir maintenant c'est descendre. Descends le premier, toi le deuxième et Sweetie en dernier. Et c'est ce qu'ils font. Mettre leur lampe dans la bouche. Cliff n'est pas très rassuré. Descendent. Et au fur et à mesure qu'ils descendent, ils y voient de moins en moins. Ça sent de plus en plus la terre mouillée et humide. Un grand bruit. C'est Didier qui est arrivé au fond et a sauté. Il dit à Cliff, bon, ne te fais pas de soucis. Tu as sauté à peu près un mètre. Et la terre est molle. Cliff, en fermant les yeux, et s'est retrouvé tout à côté de Didier qui l'aide à se relever. Puis, c'est au tour de la pauvre Sweetie. Ils voient qu'ils sont dans un couloir humide. Didier les guide. Suivent le couloir qui descend et devient de plus en plus humide. Il y a des toiles d'araignée. Ça sent très mauvais. Au bout du couloir, il y a un mur avec une ouverture assez grosse. Il la passe et se trouve dans une, disons, un grand couloir qui est en, le plafond est en demi-cercle, qui est en arche. Il y a d'énormes tuyaux au-dessus d'eux. Ça sent encore plus mauvais. Il fait chaud. Didier leur dit, ce sont les tuyaux des égouts, venez. Il continue, Waldera mort à terre. C'est très très humide. Il y a même des tuyaux qui sont percés. Ça sent extrêmement mauvais. Après un long périple, Didier les fait passer dans un passage qui ressemble à un tuyau de béton. Il faut marcher à quatre pattes. En descendant, ça devient de plus en plus étroit. Il fait très chaud. Le tuyau s'est transformé en une paroi dans le sol. Et aboutit devant une pièce où il y a un trou au mur. Il leur dit, faut passer par là. Ils s'y engagent tous les trois. Au début, c'est comme un tuyau qui descend. Un vent dit terrible. Ils aspirent. Et a perdu connaissance. Il se réveille et se trouve dans le noir. Demande, où êtes-vous? Pas de réponse. Se dit qu'ils ont dû être assommés en tombant. Alors, en tournant, il cherche. En tournant en rond, il cherche et trouve quelque chose de visqueux. Ça sent mauvais et se rend compte que c'est un rat crevé. Il se trouve dans le noir, ne sachant où sont les autres. Que faire? Il crie, au secours, au secours, au secours. Mais il n'entend que le son de sa voix. Et il est seul, marche à quatre pattes, panique. Je ne veux pas mourir ici. Il faut que je sorte d'ici. Oh oui, il faut que je sorte d'ici. En marchant, il tourne en rond, panique, à peur. Il est tombé dans un trou et perdu connaissance. Encore une fois. Il se réveille et voit qu'il est devant un hôtel, un immense hôtel. Dans une espèce de pièce très très grande, tellement grande qu'il n'en voit pas les limites. l'autel est en pierre, mais qu'au-dessus de l'autel, il y avait un très grand soleil stylisé, peut-être en or. Il brille comme le soleil, voire l'élu et les autres. Il se lève et voit qu'il est dans une très très grande pièce, tellement grande qu'il ne voit pas les limites, qu'il se sent perdu. Et dans le noir, s'approche de l'autel. Voit qu'il est immense, très haut. À côté, il ressemble à un nain. Le soleil stylisé est peut-être très immense. Il éblouit. Il ne peut pas monter les marches de l'autel. Elles sont trop hautes. Il y en a sept. Il met la main sur la première marche qui est plus haute que lui. Il ressent comme une décharge électrique. Il perd connaissance. Réveille et il est au pied d'une main de pierre, une immense main dont la paume est levée vers le haut, d'où sort une infime fumée. Cette main est sur un autel. Se lève. L'autel, c'est comme une espèce de socle. Et ça se trouve dans une pièce en cercle. Le haut est ouvert. Il n'y a pas de toit pour laisser passer le fluide. Il y a des colonnes immenses autour de la pièce, et puis aussi sur les murs, des mosaïques, et sur le sol. Sur les murs, elles semblent représenter des scènes. Sur le sol, ce sont des dessins en forme d'étoiles, dont le centre est le cercle de la main. Et le socle de la main. Autour, les colonnes sont de belles colonnes de marbre, genre antique. Il y a une ouverture au cercle qui doit être la sortie. Il y va. Il voit que dehors se trouve un ciel lumineux, d'une clarté douce. On ne sait pas d'où elle vient et de quoi elle est faite. Il y a sous le ciel une immense ville, oui, une immense ville qui semble faire toute la surface de Lyon et même plus. C'est une ville antique de toute beauté. Griff est ébloui et voit qu'il est sur une immense plateforme haute qui domine la ville. C'est magnifique. Il y a des escaliers qui mènent à la ville en bas. Il y a une place avec en étoile les rues qui se rejoignent. Des édifices, des immeubles, des palais plutôt, autour de la place. Au centre de la place, des escaliers, une statue d'un jeune homme nu, debout, qui regarde le ciel et a la main droite levée vers le haut. Il est beau et magnifique. Griff prend une rue. Il s'aperçoit que la ville est vide, mais qu'il entend les bruits de la ville. Des gens, des chevaux, et le vent, un vent étrange. Des fois, il a l'impression qu'on le cogne. La ville est magnifique et semble neuve. De beaux édifices, de belles maisons, coups pavés. Elle a une lumière, pas une lumière du jour, mais ni du soleil, mais une autre lumière. Tout d'un coup, Griff est renversé par un choc ou autre, tombe. Il entend du bruit, la foule. Puis le vent. Et plus rien. Se réveille et dans un couloir, il voit au bout un portail avec des barreaux de fer qui lui semble voir la lumière. Il y va. Le portail donne à des broussailles. Alors, il le pousse. Ne cherche pas à comprendre, trop fatigué. Il se trouve dans un parc, voit un mur et un arbre dont les branches dépassent le mur. Alors, il monte à l'arbre et saute de l'autre côté. Se trouve dans un chemin, le prend, il ne sait pas où ça va. Il voit un panneau, Oulin, il y va. Le jour est levé. Il voit un arrêt de car. Regarde celui qui va à Lyon et l'or. Va dans un café, prendre un petit déjeuner, épuisé, sale. Va se nettoyer aux toilettes du café. Puis, un peu plus tard, il prend un car pour Lyon. Arrive à son hôtel, se couche jusqu'à l'heure du départ. Passe une nuit étrange où il fait des rêves bizarres. Il plonge dans un trou noir et n'arrive pas à s'arrêter. Et il voit en haut le ciel. Puis une main de pierre essaye de le prendre. Se réveille et tout étourdi de ce rêve, de ce qui est arrivé, ne comprend rien. Se prépare pour partir, quitte l'hôtel et prend un taxi pour aller à la gare. Il a pris un taxi parce qu'il peut aller à la gare de Perrache parce qu'il a peur qu'il lui arrive quelque chose. Lyon est une ville terrible. Il se passe de drôles de choses. Arrivé à la gare, il va à son quai pour attendre son train. Il a déjà payé son billet. Peu de monde sur le quai. Enfin, le train arrive. Vite, il entre dans son compartiment. Ouf ! Il est sauvé. Le compartiment est vide. Le train se met en route. Il se sent mieux de quitter cette ville. Cette ville maudite. Se détend un peu. Sa banlieue. Et file vers Paris. Slip se détend. Il voit sur la banquette qui est en face de lui un livre. C'est une bande dessinée. La prend et voit que c'est une bande dessinée faite par un Lyonnais et qui raconte les aventures du dénommé Williams et d'une Sweetie qui vont dans les sous-sols de la ville. Il voit avec surprise que la Sweetie ressemble à celle qu'il a connue. Et dans la bande dessinée, ils font le même périple que lui. Et les personnages vivent ce qu'il a vu et ce qui lui est arrivé. Puis, se retrouver dans le parc du château d'Oulin. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Son histoire a déjà été vécue. Il est troublé et se dit que son aventure n'a pas été imaginée, que n'est pas son imagination ce qui lui est arrivé, mais bien une drôle d'histoire. Et qu'est-ce que ça veut dire tout ce qu'il a vu? Quelle est cette ville dans les sous-sols de Lyon? Et cette main? Et puis, ce temple solaire qui relie plusieurs fois la bande dessinée pour bien voir les choses. Eh bien, c'est bien ce qu'il a vu et vécu. Décide de la garder. Est épuisé, il s'endort. Le trajet est long, pénible. Cliff est toujours hanté par son aventure. Enfin, le train arrive gare de Lyon à Paris. C'est début de soirée. La gare est pleine de monde. Ça sent mauvais. Cliff sort du wagon. Il est heureux de se retrouver à Paris, qui est devenue sa ville. Malgré qu'elle soit en ruine, elle est mille fois mieux que Lyon. En sortant de la gare, va à la brasserie qui est en face de la gare. Il y a du monde. Commande une choucroute. Parce qu'une choucroute, ça nourrit beaucoup. Et après avoir mangé, un taxi pour rentrer chez lui. Rentrer chez lui, à vue de l'opéra. Là, il est heureux de se retrouver enfin chez soi. Ouf! Il prend une douche, s'allonge, puis dans la soirée, téléphone à Judith. Allô? Oui? C'est moi, Cliff. Oh, Cliff! Oui, je suis de retour. Lyon vive, étrange. Et quel mystère! Elle lui demande, inquiète. Il t'est arrivé quelque chose? Il lui dit, rien de bien grave. Mais quelle aventure! Bien heureux d'être de retour. Je viens te trouver demain soir? Elle lui dit, oui, bien sûr, tu me raconteras tout ça. Il lui demande pour savoir, et Serge, François, elle lui dit, François, il a disparu, il est parti pour ses affaires, mais il reviendra sûrement. Quelle affaire, ça je ne sais pas. Et Serge? Eh bien, je ne sais pas. Il lui dit, il doit être en pension, il ne peut venir, le pauvre. Bien, je te laisse, je t'embrasse. Moi aussi, je t'embrasse, mon chéri. Et il raccroche. Le lendemain, il se repose un peu, fait son rapport d'activité des entreprises Pontoy et Diap qui vont très bien. Puis, dans l'après-midi, il téléphone à monsieur de Jean-Ju. Allô?
Oui? Monsieur de Jean-Ju? Oui? Je suis Cliff. Oh, Cliff! Quelle surprise de vous entendre! Êtes-vous bien arrivé?
Cliff lui dit,
oui, je vous remercie, mais il m'est arrivé une drôle de chose.
Il lui raconte ce qui lui est arrivé. Le Jean-Jules lui dit,
cela ne m'étonne pas. Dijon est une ville très étrange et dangereuse. Vous avez eu de la chance.
Cliff lui demande,
qu'est-ce que ça veut dire tout ça, ce que j'ai vu?
Le Jean-Jules lui dit,
vous avez dû sûrement voir une ville construite avant Lyon.
Mais ce n'était pas des ruines, bien au contraire, une ville neuve, propre, avec un ciel très clair.
Comme plus clair que vraiment le ciel.
Jean-Jules lui dit,
vous avez dû rêver. Avez-vous bu de ce vin infect que l'on appelle Beaujolais?
Cliff lui dit,
non, j'aime pas la piquette gonne Marnia.
Jean-Jules lui dit,
et fumer non plus. Pas reçu un coup sur la tête non plus.
Alors vous avez dû rêver?
Non. Et puis j'ai trouvé une bande dessinée qui décrivait ce qui m'était arrivé.
Alors, Jean-Jules lui dit,
voilà le mystère. Vous avez dû lire cette bande dessinée et avez rêvé à ce que vous avez lu.
C'est ça le mystère résolu.
Cliff lui dit, non, je vous assure, croyez-moi.
Monsieur Jean-Ju voit que ça lui fait de la peine.
Alors, parce qu'il ne le croit pas, il lui dit, mais je vous crois, mon petit Cliff. Vous savez, Lyon a ses mystères, et ses mystères qui sont terribles. Alors, on ne sait jamais. Je vais me renseigner.
Merci, monsieur.
Vous êtes un ami.
Le Jean-Ju est tout ému. Il lui dit,
oh, je suis heureux que vous me preniez pour un ami.
Il lui dit,
je vais vous laisser, j'ai des courses à faire avant la fin, fermeture des magasins, j'ai plus rien à manger.
Le Jean-Jules lui dit,
oh, mon pauvre petit, à bientôt. Oui, au revoir, je vous embrasse, moi aussi, monsieur Jean-Jules.
Et Cliff a raccroché en se disant que monsieur de Jean-Jules ne croit pas ce qu'il lui a dit. En réalité, monsieur de Jean-Jules croit ce qu'il lui a dit. Mais il ne veut pas. Lui faire peur. C'est lui aussi que ce qu'il a vu, s'il a vu tout ça, que c'est peut-être qu'il est celui que l'on attend, l'élu. Mais il faut faire attention à ce terme. Heureusement qu'il ne l'a pas vu à Lyon. Thank you.
Le soir, il va voir sa Judith, la belle et douce Judith. En tout cas pour lui. Voir l'élu. Il sonne à l'interphone.
Oui, c'est moi. Bien, entre.
Et il entre dans l'allée. Monte à l'étage. Sonne à la porte. C'est elle. Oui. Un déshabillé rouge, flottant et transparent. Elle lui dit avec le sourire, entre. Il entre. Elle l'a fermé la porte. Elle se pend à son cou et lui demande, comment va mon petit canard? Je lui dis, très bien, mais fatigué. Lyon, c'est épuisant. Elle lui dit, je le sais, moi-même, elle m'a épuisé cette ville. Elle l'embrasse sous la joue. Viens, allons au salon. Il s'assoit. Tu veux boire quelque chose?
Oui, merci.
Un bourbon?
Oui, très bien.
Et elle va le lui chercher. Revient avec un verre. Une bouteille de service. Et s'assoit en face de lui. Il boit en silence, puis elle lui demande, alors, il lui dit, d'abord, j'ai visité les usines Pontoise à Dieppe. Elles marchent très bien. Pontoise, à fond, grâce à la guerre. Pontoise produit les repas des soldats qu'il envoie tout préparé en Afrique et l'eau minérale. Sans compter les vêtements et produits d'entretien. Par contre, il produit énormément de produits pour aliments pour chiens et chats. Depuis la guerre, ces produits ont augmenté 70%. La clientèle en demande et il paraît que les animaux en raffolent. Il n'a pas voulu me dire avec quoi ces pâtés ont été faits. Elle lui dit, de secrète fabrication maison, comme la vache qui rit ou le biscuit brun au lait. Recette maison. De bonne qualité et fait avec la matière particulière. Breveté, exclusivité. Je lui demande, je ne comprends pas pourquoi la clinique Riquin lui envoie des pleins conteneurs. Pourquoi faire? Il lui envoie ça par train. Alors, je ne comprends pas. Elle lui dit, c'est du recyclage, un contrat entre les deux entreprises. Du recyclage, de quoi? Pourquoi faire? Elle lui dit, secret commun de fabrication. Il lui dit, mais Riquin est une clinique. Elle lui dit, et alors? Ils ont des déchets eux aussi. De quoi? Il dit, ne sois pas stupide, et tout doit rapporter. Même le reste. Elle lui dit, ça a rapport avec les corps que l'on amène à Mariquin du champ de bataille d'Afrique ? Elle lui dit, en partie. Tu sais, la guerre, pour qu'elle soit rentable, il faut que les cadavres le soient aussi. Ça coûte cher, une guerre. Il lui dit, j'ai peur de comprendre. Bon, recycle bien les métaux. Alors, pourquoi pas le reste ? Il lui dit, mais c'est un peu dégoûtant. L'argent n'a pas d'odeur. Il demande, et ça sert à quoi ce recyclage ? Elle lui dit, ne te fais pas de soucis. Il ne nuit pas à l'environnement et ne pollue pas. Entièrement recyclé. Il n'en reste plus rien. Mais recyclé en quoi ? Elle lui dit, tu n'avais qu'à le lui demander. Il n'y a pas un autre sujet de conversation. Tu n'as vu que tes usines à Lyon ? Il lui dit, non, j'ai même vu M. de Janju. Je lui ai rendu visite parce que il a été bon avec moi. Elle lui dit, tu as bien fait. Et alors ? Il a été charmant et très doux. Fait, pas trop, j'espère. Il lui dit, juste ce qu'il faut, comme un homme du monde. Je suis son petit ange et un ange qui n'a pas trop de sexe. Enfin, c'est ce que je crois qu'il a dit. Et quant à lui. Donc, j'ai passé une journée délicieuse avec lui. Il m'a parlé des Hautes-Bords, Dieppe, Pontoise, montré leur maison intéressante. Puis je l'ai quitté. Et là, en entrant, pour aller à mon hôtel à pied, il m'est arrivé une drôle d'aventure. Et il la lui raconte. Elle lui dit, oui, vraiment étrange, mais tu sais, c'est Lyon. Et tu étais à côté de cette radio bizarre, Radio C. Alors, il lui dit, c'est étrange ce qui m'est arrivé que je n'ai rien compris. Elle lui dit, il ne faut pas chercher à comprendre à Lyon. Moi-même, si tu savais, il lui demande, quoi ? Elle lui dit, une histoire très personnelle. J'ai failli être pris et mis en pièces par un vampire. Cannibale est mort. Alors, tu vois, c'est à Lyon, bien sûr. Elle lui dit, mais moi, ma ville, la main, qu'est-ce que c'est ? Elle lui dit, comment veux-tu que je le sache ? Il lui dit, Monsieur Janju dit que c'est une ville, une très ancienne ville, mais ne crois pas du tout à ce que j'ai vu. Mais cette ville était une énorme ville. Elle semblait neuve, propre et pas sous terre. Elle lui dit, le sol, toi bien conservé. Tu sais, comme les momies. Il lui demande, et la main ? Elle lui dit, tu dois être une statue. Il lui dit, et la fumée ? Elle lui dit, de la poussière que le vent enlève de la main. Et les bruits de la ville, un écho. Tu as réponse à tout ? Il lui dit, ce n'est rien. Ce n'est qu'une chose simple. Tu as vu qu'une ville enfuie dans les souterrains. Et tu as sublimé comme une femme que tu croises dans la rue. Il lui dit, peut-être bien, mais la BD. Il la lui montre. Elle la regarde et lui dit,
avons présenté dans la série L'écran radiophonique le scénario original de Julien Jean-Pierre, Pierre. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.